le 5 à 7.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Frequenza Mort en ce 24 décembre. Votre invité jusqu'à 19h est l'un des chanteurs les plus célèbres de France, grand amoureux de la Corse, un chanteur engagé dans plusieurs causes. Après ses temps d'absence, il nous est revenu récemment avec un nouvel album intitulé Fragile. C'est Yves Duteil qui est avec nous ce soir. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation cette veille de Noël.
Eh ben c'est très gentil à vous de me recevoir, je suis très touché, très heureux.
Nous allons passer un moment ensemble, donc revenir sur votre dernière actualité, votre attachement bien sûr à la Corse, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Il peut y avoir aussi dans cette émission quelques surprises, hein, quelques petits cadeaux, ça tombe bien en ce 24 décembre. Vous aimez les surprises en général, Yves ?
Ah, j'adore ça.
La tradition de cette émission, c'est de débuter avec le portrait de l'invité. Isabelle Bézier nous en dit plus sur vous.
Zoom, zoom, zoom sur l'invité.
Depuis longtemps, Yves Duteil nous accompagne et nous prend par la main. Il ne déménage pas, il ne casse pas la baraque, il ne fait pas la une des journaux People, il ne fait pas de bruit, il chante. Il est juste Yves Duteil qui vit, changeant et fidèle, et qui réussit le tour de force de n'être jamais has-been. C'est à votre 59e printemps, me semble-t-il, que vous avez sorti votre 13e album, Fragile, écrit avec Art Mingo. Loin de moi l'idée de vouloir tirer la couverture à soi, à moi, de vouloir vous corsiser alors que votre curiosité s'applique aussi bien au Tibet, à l'Inde qu'à Ingrid Betancourt, mais encore aux incendies en Corse et ailleurs. Et pourtant, tu n'es pas mon pays et pourtant c'est ici que je voudrais finir ma vie, chantez-vous dans votre dernier album avec Jean-Pierre Marcellesi et Avileta. Comment ne pas être touché par autant de justesse de ton et de fond quand certains s'approprient la Corse avec ta page médiatique, quand d'autres se dorent la pilule au soleil, les yeux fermés, sans jamais les ouvrir sur leurs voisins, quand d'autres clament leur corsitude haut et fort et d'autres encore se méfient de cette corsitude comme de la peste, vous êtes juste là, la guitare en bandoulière, et vous nous offrez, mine de rien, la perle de votre dernier album. En référence à votre femme, et en ce jour particulier et cette nuit particulière qui s'avance, je dirais que c'est le miracle de Noël. Attention humain, attention fragile, voici Yves Duteil.
Une petite réaction, Yves Duteil ?
Ah, c'est très touchant, très émouvant et très juste. Je dirais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de simplicité dans ce portrait et qui met en lumière des aspects qui sont justement l'essentiel, je crois. C'est faire et pas forcément s'avancer dans un rond de projecteur. Quoi.
Après plus de 35 ans de carrière, vous avez sorti cette année votre 13e album. On doit dire fragile, agile, il y a un petit jeu de mots. Hein, sur
oui, on a mis entre parenthèses FR, c'est un troisième tiroir du jeu de mots, puisque FR c'est l'image de la francophonie, c'est un peu l'esprit d'Internet. Donc il y a une modernité, à la fois une ouverture sur le monde et en même temps une francophonie affirmée. Et l'agilité et la fragilité, tout ça en un seul mot.
Une interruption de studio et de scène durant 7 ans, hein, on le rappelle. On sent tout de même à l'écoute de votre nouvel album que votre amour pour la chanson est intact. L'engagement y est toujours présent. Que symbolise-t-il pour vous ce 13e album ?
On l'a appelé Fragile à la fin. On ne s'est pas mobilisé sur un thème. J'ai écrit des chansons et pourtant ça symbolise effectivement la fragilité. Mmh. Parce que je crois que la vie nous rend fragiles. On est bouleversé par ce qui nous traverse, par ce qu'on éprouve et par les choses dont on est victime, parce que personne n'est à l'abri. Je veux dire, les gens les plus célèbres, d'ailleurs, le côté peopleisation de la vie se repaît un peu de cette fragilité des êtres et en rajoute un peu. Mais la vérité, c'est qu'on est tous logés à la même enseigne, face à la maladie, face à la crise, face... au côté un peu difficile à vivre de notre époque psychologiquement. Bon. Et cette fragilité, c'est un peu l'écho en chacun de nous de l'expérience acquise, des épreuves traversées. Et toutes les chansons ont un lien avec la fragilité. Mmh.
Je parlais de votre engagement, Isabelle aussi. Vous êtes toujours aujourd'hui un artiste engagé. On démontre donc votre nouvel album. On y parle notamment de violence conjugale, du Tibet, ou encore du sort des otages et le destin d'Ingrid Betancourt. C'est important d'être engagé aujourd'hui ?
Je crois que c'est inévitable. Parce que l'actualité, elle nous poursuit, elle nous envahit, elle nous parle tout le temps. C'est un flot d'émotions fortes, agréables, désagréables. Violente, douce, mais c'est un flot d'émotions qui nous traverse en permanence. Donc on peut difficilement rester indifférent à ce monde, que ce soit en créant les Restos du Cœur ou simplement en répondant à l'appel d'une cause ou alors simplement en étant en résonance avec des épreuves du monde, des gens qui traversent des moments difficiles. Donc je crois qu'on peut difficilement rester complètement étranger, aujourd'hui, plus qu'avant, je crois, à ce que le monde nous offre en termes de solidarité, en termes de participation à la souffrance du monde, ou de solutions peut-être.
Et la Corse est très présente dans cet album, plus que dans les autres, hein, Yves, pourquoi ?
D'abord, peut-être parce que je parle plus directement des choses, et que j'avais déjà écrit une chanson qui s'appelle « L'Écorce », mais où je parlais du portrait sensible, je veux dire, que l'Écorce m'évoque. Mais là, c'est peut-être encore davantage un engagement à reconnaître ou faire reconnaître la nature profonde des êtres dont on ne voit souvent que l'image déformée dans l'actualité. Mmh. Et je l'affirme peut-être avec plus de conviction, parce que je suis peut-être moi aussi dans une période de maturité un peu plus grande qu'avant. Et puis que je crois que l'époque, c'est de dire les choses peut-être plus clairement qu'avant. Donc oui, c'est un engagement plus clair peut-être, à d'autres égards aussi.
D'ailleurs, nous allons écouter tout de suite une chanson sur la Corse. Donc nous allons écouter un extrait de cet album. C'est vous qui l'avez choisi. D'ailleurs, on rappelle que ce sont les invités qui font le programme musical dans le 5 à 7. On écoute « Tu m'envoles », on en reparle juste après.
Tu n'es pas mon pays, et pourtant c'est ici que je voudrais finir ma vie. Sur ton île où mes rêves ont choisi leur maison, une montagne à l'horizon. Comme un arbre à la mer, quand parfois je me perds, le courant me ramène en arrière. Voyageur solitaire, mes racines à l'envers, partout j'ai le mal de ta terre. J'ai les ailes et le cœur d'un oiseau migrateur, et mon vrai pays est ailleurs. J'ai besoin de sentir tes parfums m'envahir quand la nuit je décolle. Tu m'envoles. Voyageur imprudent, j'ai cueilli en passant deux pétales à ta rose des vents. Le premier pour partir, effacer les frontières, le second pour garder ta lumière. J'ai toujours avec moi tes visages et tes voix, un chemin qui conduit vers toi. Une main de corail dans la mienne où que j'aille, ton chant pour guider mes pas. Jusqu'au bout du voyage, les oiseaux de passage restent fidèles à ton rivage. J'ai besoin de partir, mais pour mieux revenir, libéré sur parole, quand tu m'en vas. J'ai du vent dans les veines, et ton chant des sirènes à la fois me libère et m'enchaîne. Naufragé volontaire, sans barreau ni barrière, j'ai l'âme à jamais prisonnière. J'ai les ailes et le cœur d'un oiseau migrateur, et mon vrai pays est ailleurs. J'ai besoin de sentir tes parfums m'envahir quand la nuit je décolle, les deux pieds sur le sol. J'ai besoin de sentir la fenêtre s'ouvrir, libéré sur parole, tu m'en vas. Solitaire, j'ai le mal de ta terre. L'île...
libéré sur parole. Quand la nuit je décolle, les deux pieds sur le sol, tu m'en vas.
Tu m'envoles, Yves Duteil, invité du 5 à 7 ce soir sur Fréquence à mort en ce 24 décembre. Chanson, je le disais, hommage à la Corse, hein, chanson extraite de votre nouvel album, Fragile. La Corse, donc omniprésente dans cet album, dans les textes, aussi grâce aux artistes insulaires, hein, qui ont collaboré à cet album. Ils y sont nombreux.
Oui, on entend dans cette chanson la voix de Jean-Pierre Marcellesi. Mm-hmm. On entend celle d'Avilette, hein, à qui on a donné carte blanche sur la fin de la chanson pour s'envoler avec nous, pour faire ce qu'ils veulent.
Oui.
Et c'est vraiment, moi je suis émerveillé de ce qu'ils nous ont fait, parce que c'est tellement dans l'esprit de la chanson, et c'est ce qu'on voulait, c'est quelque chose qui soit pas vraiment juste une polyphonie traditionnelle corse, mais quelque chose d'un peu plus recherché, d'un plus, inattendu.
Oui.
Et ils ont fait vraiment une merveille, moi je n'ai pas atterri encore.
Alors comment elle est née cette chanson ?
Elle est née de la musique de Jean-Pierre. Je trouvais que c'était une mélodie fabuleuse. Mmh. Et très vite sont venus les mots de « tu m'envoles ». Et il est devenu évident instantanément que c'était un hommage à la Corse. Et j'ai remanié le texte 10 fois pour arriver à une densité où chaque mot veut vraiment dire quelque chose, comme une main de corail dans la mienne où que j'aille. C'est, ouais. Cette main de corail, tout le monde la connaît en Corse. Elle est sur les berceaux de tous les enfants autour de nous. C'est ce symbole, et on en retrouve des comme ça dans toute la chanson. Et chaque mot veut dire vraiment quelque chose de particulier, de vécu. Ce sont toutes les images qu'on a glanées tout au long de notre histoire avec la Corse, qui est une histoire d'amour.
Jean-Pierre Marcellesi, donc, qui a signé la musique de Tu m'envoles, un ami de longue date. Hein, Yves, vous dites aussi que c'est un peu comme votre petit frère.
Oui, c'est un frère à la fois en amitié et en musique. Il a écrit 4 musiques dans cet album, et pas les plus faciles. En tout cas, il y a certaines où j'ai mis des textes dessus, d'autres où c'est lui qui a mis la musique. Les enfants du Tamil Nadu, il a mis la musique sur le texte. Les amours fanés, j'ai mis un texte sur sa musique. Je crois qu'il y a un échange permanent entre nous, qui fait qu'au-delà de l'amitié, il y a d'abord cet échange culturel, qui est franco-corse, où je m'amuse souvent à dire que, pour une fois, qu'il y a... Quand on est sur scène ensemble et qu'on s'accorde, je dis les guitares, c'est pour une fois qu'il y a un continental et un corse qui s'accordent. Et il y a cette harmonie amicale qui fait que, oui, pourquoi est-ce qu'il y aurait toujours un antagonisme entre les continentaux et les corses ? Il peut y avoir cette fraternité qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qui peut y avoir comme obstacle entre les gens. Et d'abord, c'est une amitié qui dure. Qui dure depuis très longtemps et qui s'est longtemps et souvent transformé en musique.
Bonsoir Jean-Pierre Marcellesi.
Bonsoir.
Première surprise.
Ah oui, oui, oui. Ah, je suis content. Je suis très content.
Chacun son tour.
Ben ouais. Oui, c'est vrai.
Jean-Pierre, merci en tout cas d'être avec nous ce soir dans le 5 à 7 et en ce rayon de Noël. Alors, comment vous êtes rencontrés, Jean-Pierre, vous vous souvenez ?
La première fois, c'était lors d'un festival qu'organisait à l'époque Pierre Carré, il y a Bonifacio. Donc, c'était le festival, je dirais, avec musique sud-américaine, où Yves, justement, était l'artiste invité de la première choré ou de la deuxième. Et nous, avec mon frère Charles, on faisait juste un passage de 3-4 chansons. Comme on avait, je disais, remanié à l'époque revisité des chansons, en l'occurrence de Jean-Paul Paulette et de Charles aussi, mais en les faisant, dans une version un peu brésilienne. Yves nous avait même fait l'honneur de nous faire profiter du guitariste qui était avec lui, qui s'appelait, puisque le pauvre est décédé maintenant, Raphaël Rabello. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus la première fois. Et bon, moi, je connaissais Yves depuis longtemps, puisque j'avais publié une cassette de son album de la langue de chez nous, qui me cuivait partout, voilà. Ouais. Et donc, j'en étais très heureux, et ça a été la première rencontre.
Concernant les albums, c'est la première fois que vous collaborez ensemble ?
C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Je dirais même que c'est la troisième fois, puisque Yves m'a habillé une de mes chansons sur mon album aussi. Mais on avait déjà travaillé sur l'album Touché d'Yves, sur lequel moi j'avais fait une musique qui était dans le silence, où j'avais trouvé qu'il était très dur avec moi, puisque avec mon défaut de langue, je ne pouvais jamais l'interpréter.
Jamais je me suis rendu compte de ça, j'ai fait dans l'eau de ses silences. C'était très méchant, hein, après.
Yves le disait, Jean-Pierre, vous a laissé un peu carte blanche pour tout ce qui était arrangement, musique.
Oui, complètement, enfin, carte blanche, de toute façon, de toute façon, carte blanche, parce qu'on on travaille ensemble, et c'est ce qui est un peu génial, c'est ce qui est génial, je parle dans ces aventures avec Yves, c'est que après il y a un tas d'idées comme ça qui viennent, et puis alors lui il enregistre tout, et il a raison de tout enregistrer, parce que des fois, bon, il y a certaines choses qu'on fait comme ça en s'amusant, et c'est souvent ça qu'on retient, parce qu'on l'a fait avec tellement de spontanéité, c'est ce qu'on aime le plus après, et Yves fait après le bon choix, je pense. Et je sais qu'il a laissé carte blanche aussi à Villette pour les chœurs, mais bon, c'est vraiment quelqu'un qui partage quand il est en, que ce soit en studio comme en répétition, quoi. Il partage avec les musiciens, il les laisse s'exprimer, et puis après, il prend ce qu'il y a de meilleur. Voilà.
Je me souviens vraiment de la première musique qu'on a écrite ensemble par rapport à cet album. C'était la première. Il n'y avait pas encore de chansons. Et Jean-Pierre me dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire l'inventaire de tout ce qu'on pourrait faire comme chanson si on faisait un spectacle ensemble? Et on a aligné des titres, et puis tout d'un coup, il me dit, tiens, j'avais fait ça avec mon frère. Il me montre une suite d'accords. Et là, il me dit, mon frère, il faisait un autre renversement à la guitare, il faisait comme ça. Alors, je prends ma guitare, je commence à faire le renversement, et on est partis en impro tous les deux. Et c'est devenu une chanson, c'est Ma Terre Humaine sur l'album.
Vous l'avez aussi fait monter sur scène, Jean-Pierre Marchelès, Yves?
Alors, on s'est fait monter sur scène réciproquement dans les spectacles de l'un, dans les spectacles de l'autre, et on a partagé des aventures formidables, comme par exemple ce spectacle qu'on a fait un jour à l'Hospédal, tous les deux, ou avec quelques autres amis, répété un peu comme ça, presque spontané, avec quelques chansons qu'on avait préparées, et puis l'improvisation autour, beaucoup. Et puis, il a chanté dans plein d'occasions aussi.
Je peux dire aussi que c'est Yves qui m'a fait monter, ça a été la première personne qui m'a fait monter sur une grande scène.
Ah oui.
D'ailleurs. Hein. Bah oui. Parce que ça a été d'ailleurs mon cadeau d'anniversaire. Je te vois que je fais les 6 soirs avec lui en première partie au Casino de Paris. Et c'était quand même extraordinaire, en 97.
Pour nous qui le connaissons surtout à travers la scène publique, comment pourriez-vous définir son caractère, Jean-Pierre, vous qui le connaissez, on va dire, dans l'intimité?
Moi, je dirais que déjà, bon, généreux, gentil, je pense qu'il n'y a pas plus gentil. Mais attention, il ne faut pas confondre. Parce que quand il est en rogne, il va jusqu'au bout. Hein.
Vous avez une anecdote?
Des exemples. Je me souviendrai d'une fois où on devait prendre un train, et bon, je ne sais plus à cause de quoi, on a eu un petit retard, donc on a loupé ce train. Et puis, il était derrière... Donc derrière la vitre et à la SNCF, ces gens m'ont parlé le fait peut-être que cette vitre en double ou triple vitrage se sent beaucoup plus libre et se permettent un peu de faire du zèle. Et là, ça passait pas du tout. Et alors, et c'était dommage même parce que Yves s'énervait tellement. Il disait, mais attendez, mais vous voulez pas qu'on se voit parce que l'étude ne voulait rien entendre. Et là, je l'ai vu vraiment s'énerver pour s'imposer et puis pour dire, non, mais moi, je vais pas laisser passer ça. Au même titre que, bon, des fois, il est arrivé aussi de s'attraper avec des gens qui pouvaient avoir des remarques désobligeantes et qui se permettent ça aussi souvent, hein, ou derrière un micro de radio, ou derrière un truc comme ça, et parce que c'est vraiment quelqu'un qui laisse pas passer, parce qu'il respecte de toute façon les gens et il se permet jamais ce genre de choses, donc il accepte pas de l'autre côté, quoi.
Jean-Pierre Marchelès, merci en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce petit moment avec nous,
sur l'antenne de Fréquence Samoa. Merci à vous et j'espère un jour que quelqu'un vous fera goûter ses desserts, parce que ça, je ne sais pas s'il l'a dit dans l'émission, mais c'est le roi des desserts.
Ah oui, non, mais on partage avec Jean-Pierre une passion pour le chocolat.
Oui.
Je vais vous dire un secret, quand Jean-Pierre travaille comme ça le soir tard, il pose une plaque de chocolat sur le radiateur et il la déguste presque coulante. Quoi. c'est un accro du chocolat, ouais. Comme moi. On est deux fondus du chocolat.
Ah non, on est au moins trois sur Terre.
Ah.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Marchelaise.
En tout cas, merci à vous. Je vous embrasse très fort.
Bon réveillon aussi.
Et joyeux Noël.
Et joyeux Noël à toi aussi, mon Jean-Pierre. Gros merci pour tout ce que tu as dit de très gentil.
Ouais, ça vient du fond du cœur.
Merci beaucoup,
voilà,
Jean-Pierre.
Et à la mode de corps, je dirais qu'il y a eu du thé.
Merci Jean-Pierre, à bientôt.
À bientôt, à très vite.
Dans un instant, le journal sur Frégoine Samor, à plus le 5 à 7 continue. C'est Yves Dutheil qui est ce soir votre invité en cette veille de Noël. On vous retrouve tout de suite avec Jean-Pierre Marchelaise. On en parlait donc de cette collaboration à nouveau sur son nouvel album, hein, Solumai, sorti récemment avec Cancal. Alors deux mots sur cette chanson, Yves.
Jean-Pierre a fait une musique après un séjour à Cancal qui a compté beaucoup pour lui, pour les siens, et lui et Julie. Et il m'a parlé de cette soirée qu'ils ont passée, qui était une soirée très intense de prise de conscience et qui s'est passée là-bas. J'ai tout noté dans ma tête et j'ai parlé avec sa voix. J'ai raconté son Cancal à lui et ça a donné cette chanson.
Et on écoute.
Elle a l'air si calme au-dessus de nos têtes. L'océan mêle le rose à l'ivoire et l'or à la douceur du soir. Les voiliers replient leurs voiles, tout semble si tranquille à voir. Cœur au repos au bord de l'eau, il y a comme une ombre au tableau. Ici l'amour se mesure à l'absence. Partir est écrit dès l'enfance. Mais les yeux noyés dans les étoiles, l'espoir est peut-être en escale. Cancale.
La mer semble si belle, comment pourrait-on croire aux histoires que racontent les marins sur le port, sur ceux qui manquent à ce décor. Comme un répit pour le voyage, comme une trêve au goût salé. Ici c'est l'eau l'histoire, tout en retour et en départ.
Mais faudra-t-il toujours payer d'avance, en peur, en larmes et en souffrance.
Si seulement c'était un jour de chance, la vie pourrait recommencer. Pour ouvrir nos ailes, retrouver mes vagues fidèles, les croisées des alizés au parfum de liberté. Là où l'amour se mesure au silence,
la paix se nourrit de patience.
Mais nos rêves au seuil de l'espérance
auront grandi sous les étoiles de Cancale. Au Cancale, l'escale.
Cancale.
5 à 7, The Place to Be.
Vous savez, moi, dans les discothèques, on était quelques Corses comme ça.
5 à 7, à vos cassettes. Ah non.
Tantôt, j'allais en costume 3 pièces, le lendemain, j'étais en poncho.
5 à 7.
Oh non, rien de pire.
La suite du 5 à 7 en cette veille de Noël avec Yves Dutheil qui est avec nous jusqu'à 19h sur Fréquence Amour. Soyez les bienvenus. Yves, alors j'aimerais vous poser peut-être une question un peu naïve. D'où vous vient cet attachement, cette passion pour la Corse?
Je crois que ça s'attrape. Mmh. Ça s'attrape, mais quelqu'un vous le passe. C'est Noël, mon épouse, qui a vécu toute son enfance, toutes les vacances de son enfance avec ses parents en Corse et qui a vécu plusieurs années là-bas. Et elle m'a emmené, et j'ai découvert, au-delà des paysages, au-delà du soleil, des plages, j'ai découvert des gens, une famille, avec tout ce que ça peut comporter d'hospitalité, de talent, pour ouvrir le cœur, les bras, le peu que chacun possède, il le met sur la table, et on partage. Et j'ai gardé de ça une notion extrêmement émue de l'accueil. Et ça m'a donné la passion de cette Corse d'échange. Et bon, je crois que ce qu'on a essayé de faire avec Noël depuis le départ, c'est qu'on ne vienne pas juste prendre le soleil, prendre la plage, prendre le paysage, mais échanger avec les Corses quelque chose de plus profond, de plus installer une amitié plus durable, je dirais. Et voilà, et on en est là aujourd'hui avec... Des êtres délicieux, qui sont l'image pour nous de la Corse est tellement loin de cette image un peu figée, un petit peu caricaturale, que c'est pour ça aussi que j'ai tellement à cœur d'en parler, parce que je crois que en parler avec sincérité, c'est aussi rendre la Corse un peu de ce qu'on ne lui donne pas en général vu de l'extérieur. Et quand on le voit de l'intérieur, on comprend mieux.
Vous y venez très régulièrement, hein, notamment du côté de Porto-Vex, vous avez une maison.
Ouais, pas assez à notre goût. mais chaque fois, c'est un bonheur et chaque fois, c'est un déchirement de repartir. Mmh. Mais en même temps, j'aime bien cette alternance. Je trouve que ça donne le regret de partir, ça donne envie de revenir. Et ça donne une valeur aussi à ce à quoi on est attaché.
Une maison donc du côté de Porto-Vex, où vous êtes d'ailleurs beaucoup investi, hein, Porto-Vex notamment dans la culture. Vous avez apporté votre expérience avec l'organisation de festivités notamment.
Oui, alors ça c'est aussi le fruit des rencontres. Alors on a rencontré Jean-Pierre Mattei qui a été pendant des années un peu l'âme culturelle de Porto-Vex à travers la cinémathèque, à travers l'enrichissement du patrimoine par la recherche des vieux films et de l'histoire du cinéma à travers la Corse. Il avait aussi cette passion de la culture qui faisait qu'il avait envie d'animer sa ville. Et donc, on l'a simplement accompagné dans cette démarche. Et comme on avait peut-être des relations peut-être plus faciles avec des musiciens, avec des gens du spectacle, on a organisé chaque année pendant 7 ou 8 ans, je ne sais plus, un festival de musique classique qui était un festival où on recevait les musiciens chez nous, qui donc ne coûtait pas d'argent à la commune, ou très très peu, et où on amenait des talents, des soirées, où on prenait autant de plaisir, nous, à se réveiller le matin avec une flûte qui répète un morceau ou un violoncelle en pleine nature, qu'à présenter le spectacle du soir à l'église ou à la citadelle, enfin au Bastion de France. Et voilà, ça s'est prolongé. Puis après, on a trouvé d'autres façons aussi de s'engager pour la Corse quand le relais a été pris, quand on a pu laisser le bébé à d'autres qui avaient aussi du talent pour le faire.
Bonsoir Jean-Pierre Mattei.
Oh. Bonsoir.
Ah, incroyable.
Bonsoir Yves.
Bonsoir Jean-Pierre. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre.
Voilà, quelques années nous ont forgé une amitié durable.
Indestructible.
Voilà.
Alors comment vous êtes rencontré Jean-Pierre, vous souvenez?
Ben, j'étais à Porto-Vex, où je venais de prendre mes fonctions d'adjoint aux affaires culturelles. Alors, c'était en 1983. Et Yves Dutheil, qui était un nouveau Porto-Vexais, s'est gentiment prêté à vouloir animer avec... moi, la ville de Porto-Vex, et nous avons fait un long parcours ensemble. Mmh. Et Yves n'a pas ménagé sa peine, ni ses moyens, ni ses connaissances pour faire de ces rencontres annuelles au mois de juillet-août une
Ce que Porto Vecchio est devenu aujourd'hui une ville, dirons-nous, à l'écoute de tout ce qui se fait sur le continent, Yves y a participé avec nous.
Jean-Pierre Mattei et Jean-Pierre Marchelaise, ils disaient que Yves est quand même un garçon déterminé. Vous rejoignez Jean-Pierre Marchelaise ?
Déterminé, c'est-à-dire qu'il est organisé et il sait ce qu'il veut. Et en même temps, quand il propose quelque chose, on sait que ça va aboutir. Alors ça, c'est merveilleux. Parce qu'on dit toujours, les artistes sont des gens qui sont des rêveurs, qui ne sont pas des organisateurs, sur lesquels on n'est pas sûr de se reposer. Là, c'est pas de dire qu'on s'est reposé sur lui, mais on a monté avec lui, c'est-à-dire que ce qu'il proposait et ce que l'on proposait, on arrivait à monter un programme qui tenait la route. Là, je me rappelle en 88, ça avait été un feu d'artifice. Il avait fait venir Follon. On avait fait une très belle exposition, je me rappelle, dans la salle municipale de Porto Vecchio, qui n'était pas du tout habilitée à recevoir des expositions. C'était la quatrième semaine musicale qu'il avait initiée avec le groupe Equalis, où il y avait des musiciens de très haut niveau. Et c'était une semaine qui était très courue. Pendant 8 jours, tous les soirs, il y avait des concerts classiques à l'église Saint-Jean-Baptiste, et ça avait un franc succès.
Bon, il ne faut pas oublier que vous êtes aussi maire d'une commune, Yves Duteil.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Peut-être un peu pour ça aussi.
Mais je ne l'étais pas encore quand on s'est rencontré avec Jean-Pierre. Et c'est vrai que le voir, lui, en tant qu'adjoint, se débattre comme il l'a fait pour... D'abord, il est le père spirituel, et pas seulement spirituel, de la Cinémathèque de Corse, qui est une des plus belles cinémathèques.
Vice-président
et
présent,
du centre culturel qui s'est bâti autour, qui est la plus belle salle de Corse. C'est à Porto Vecchio. Et ça, c'est certainement à l'opiniâtreté de Jean-Pierre qu'on le doit. Derrière les gens décidés, il y a toujours une personne. Il y a sa Johanna. Moi, j'ai ma Noël. Mais lui, il a Johanna, qui est vraiment aussi une aide permanente. Et bon, je crois que Jean-Pierre, il est le symbole de l'évolution culturelle de Porto Vecchio, simplement parce qu'il l'a voulu avec tellement fort que dans des cas où on veut les choses aussi fort que ça, l'univers conspire à réaliser les rêves, et ce rêve-là s'est réalisé, par hasard.
Et quand vous voyez Jean-Pierre, vous parlez quoi ? Culture, surtout ?
C'est-à-dire, on parle justement de l'avant. On ne regarde pas le passé. Je crois qu'on est plutôt des personnes qui voyons l'évolution, et on aimerait que les choses qui sont mises en place... évolue favorablement, et je pense que c'est un peu le côté, dirons-nous, volontaire de d'Yves qui rejoint le mien, c'est-à-dire que quand on a décidé quelque chose, on a envie que ça se réalise, et que ça se réalise pour le plus grand nombre. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais aimé avoir le talent musical d'Yves. Et ça, malheureusement...
Vous n'avez pas réussi, Yves, à transmettre ce talent musical à Jean-Pierre.
J'ai essayé, mais bon, je pense qu'il a tellement d'autres talents à développer qu'on ne peut pas avoir un temps pour tout, peut-être dans une autre vie.
Bon, qui sait. Merci Jean-Pierre Mattei d'avoir été avec nous, et passez de bonnes fêtes et un bon réveillon.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Je t'embrasse très très fort, Jean-Pierre.
Nous allons retrouver un autre de vos choix musicaux avec Véronique Sanson, ma révérence. Rassurez-nous, vous n'allez pas tirer tout de suite votre révérence, Yves.
Non, j'ai pas envie tout de suite.
Bon. Pourquoi Véronique Sanson ?
Je vais vous dire, la dernière fois qu'on a vu Véronique, c'était à l'Olympia, quand elle a donné son spectacle en début décembre, là. Mais on l'avait vu à Herbalung un petit peu avant, dans le même spectacle, et on était scotchés. En fait, Véro, c'est une amitié. Je comparerais ça à des dauphins qui nagent sous l'eau, puis qui, à un moment donné, crèvent la surface et se retrouvent tous les deux au-dessus de la surface et se rejoignent. Et c'est ça qui se passe tout le temps avec Véro, c'est cette complicité qui se passe comme ça par moments, et toujours dans des moments sensibles, des moments importants, ou pour elle ou pour nous, d'épreuves ou de difficultés ou de bonheur. Et Véro, elle accompagne notre vie, et elle a été extrêmement importante à des moments clés. Je vous cite un seul exemple, à Herbalong, j'ai pris conscience en voyant Véro travailler sur scène et chanter, que je devais essayer d'atteindre cette perfection, sans forcément y arriver, mais en tout cas, y a eu une véritable émulation avec elle à travers le talent qu'elle développe, la rage qu'elle a à la fois de vivre au-delà des épreuves et d'offrir au public le meilleur de son émotion avec une force, une énergie. Et quand je vois un spectacle de Véro, j'ai l'impression de prendre une leçon de spectacle. Et quand je la regarde vivre, j'ai l'impression de prendre une leçon de courage.
Voici ma révérence, Véronique Sanson. Vous avez choisi cette chanson pour nos amis auditeurs. Yves Duteil, vous êtes avec nous dans le 5 à 7 sur Fréquence Amor jusqu'à 19h. La révérence, Véronique Sanson sur Fréquence Amor à Yves Duteil et votre invité en ce 24 décembre dans le 5 à 7. On parlait en début d'émission de votre engagement dans votre nouvel album. Yves, vous êtes engagé dans plusieurs causes humanitaires depuis de nombreuses années. Parmi d'autres engagements, vous avez pris aussi la défense des langues régionales en France à une certaine époque. Pourquoi cette implication ?
Parce qu'on ne peut pas renier ses racines. Or, le français est une langue issue de toutes ces langues régionales et on ne peut pas... les écarter d'un revers de la main pour dire, voilà, la francophonie, c'est tel mot et pas tel autre. Non. La francophonie, elle va de l'intérieur des langues régionales jusqu'au Vietnam, où il y a 0,7% de francophones. Mmh. Et on aura beau nous parler d'Europe, nous parler de monde, de planète, on n'arrachera pas des tripes des gens le fait d'être né en Corse, d'être né en Alsace, d'être né au Pays Basque. Et plus on leur... parlera d'uniformisation et plus ils auront envie de dire qu'ils sont différents. Donc je crois que essayer d'extirper comme ça le patois, le parler d'un lieu pour essayer de parler la même langue, c'est une utopie, c'est une vue de l'esprit. C'est comme si on disait, bah voilà, aujourd'hui il y a Internet, il y a le TGV, il y a les avions à réaction, il y a des fusées, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a encore des accents. Voilà, il y a des accents corses, il y a des accents québécois, il y a des accents de tous les endroits où on parle français sont identifiés par quelque chose qui à la fois peut être du domaine de la langue, comme les langues régionales, ou du domaine de la gastronomie, ou de l'architecture, ou de la génétique, mais on ne peut pas nous arracher ça. Ce serait idiot, et ce serait contraire à l'esprit de l'ouverture qui fait que, dans certains domaines, il faut qu'on parle le même langage. C'est très important que les contrôleurs aériens parlent tous la même langue pour que tout le monde comprenne très vite, en direct, qu'il faut changer d'altitude, qu'il faut prendre tel cap. Mais au-delà de ça, ça n'implique pas que la littérature doive s'écrire en anglais. Donc il faut bien prendre la mesure des choses. Je crois qu'il faut donner aux gens la reconnaissance de leur identité. Parce que si on ne la leur donne pas, ils la prendront.
Vous avez suivi, je suppose, que depuis que vous êtes attaché à la Corse, l'évolution de la langue corse. Quel constat pouvez-vous faire aujourd'hui sur son évolution ?
Je trouve qu'elle est vivante. Moi, je vois autour de moi beaucoup de gens qui parlent en moitié français, moitié corse. Je commence à comprendre la langue corse parce que je l'entends tellement que je finis par m'habituer aux mots et à reconnaître les mots. Ouais. Donc, je veux dire, on peut se comprendre, on peut très bien se comprendre. Et quand il y a un mot qui achoppe, on le dit en français. Mais ça amène les francophones à comprendre la langue corse. Donc, moi, je la vois évoluer, je la vois vivante, je la vois plus parlée qu'écrite. Mais le fait qu'elle soit enseignée, le fait qu'elle soit reconnue, pour moi, c'est un progrès. Et elle est dans les familles, il faut respecter ça.
Vous écoutez de temps en temps des groupes corses ?
Bien sûr, c'est comme ça que j'ai découvert Ravilette. Hein. C'est que, au-delà de la notoriété la plus évidente, il y a aussi des échanges, des partages, des moments où on se rencontre. Et Ravilette, par exemple, je les trouve très, très enrichissants parce qu'ils sont dans la tradition, mais ils sont aussi dans l'innovation. Et il y a une recherche dans la façon qu'ils ont d'aborder la musique et ça me donne envie d'aller plus loin, d'aller découvrir d'autres de leurs chansons, d'autres de leurs expressions. On est allé les voir à Paris quand ils ont chanté, c'était le Trianon je crois, et j'ai découvert tout un spectacle a cappella avec juste un violoncelle à un moment, c'est fantastique. Oui, on écoute ce qu'ils font.
Nous allons retrouver un autre rendez-vous, c'est le quiz du 5 à 7 tiré du questionnaire de Marcel Proust, hein, que vous devez connaître du moins de nom.
Oui.
À vous donc de répondre spontanément à ces quelques questions, vous êtes prêts ?
Oui.
Si vous étiez une fleur ?
Une orchidée.
Si vous étiez une couleur ?
Je serais bleu. Un bleu particulier. Ce bleu, vous savez, qu'on trouve sur certaines lumières de Noël maintenant, et puis c'est un bleu très intense, très dense, très fort. Qu'on a retrouvé sur des téléphones portables il n'y a pas très longtemps aussi, un bleu magique.
Si vous étiez un héros de fiction
Je serais peut-être Luke Skywalker.
La qualité que vous préférez chez une femme
? L'intuition.
Chez un homme
? L'intuition.
Quelle est la faute qui vous inspire le plus d'indulgence
? Non, je dirais la loyauté chez un homme, peut-être. La loyauté, oui.
Quelle est la faute qui vous inspire le plus d'indulgence
? La naïveté.
Votre principale qualité
? Je dirais loyal, oui, honnête, fidèle, pas jusqu'au suicide, mais oui, loyal.
Votre principal défaut ?
Je n'ai pas la notion du temps, ce qui fait que je peux vraiment mettre mon entourage dans un embarras terrible parce que je suis incapable de faire deux choses en même temps et je me disperse quand je suis obligé de le faire. Et du coup, je ne suis pas dans les choses que je fais, je suis dispersé, distrait.
Si vous deviez changer quelque chose chez vous, ce serait quoi ?
Plein de choses. Je suis tout le temps en train de changer quelque chose chez moi. J'essaie de me remettre en cause parce que j'ai conscience de mes défauts. Je ne vais pas vous les décrire parce que je n'ai pas du tout envie de vous donner des armes contre moi. Non, vous n'avez pas à savoir d'abord. Mais par contre, j'essaie de corriger ces défauts à partir du moment où je les connais. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse vivre une vie en se disant « ce n'est pas à mon âge que je vais changer ». C'est une phrase dont je ne connais pas l'expression. Je pense que c'est vraiment peu réaliste par rapport à ce que doit être une vie. Si on peut dire qu'une vie doit être quelque chose, je pense qu'on n'est pas là pour être figé dans une personnalité définitive. Si on a des défauts, on a peut-être un peu le devoir d'essayer d'y remédier.
Un pays où vous aimeriez vivre ?
La Corse ?
Non, c'est pas possible.
Hein, ça vous étonne.
Enfin, votre rêve de bonheur ?
C'est d'avoir toujours un bonheur de retard. C'est-à-dire un rêve d'avance.
Yves Duteil est notre invité dans le 5 à 7 jusqu'à 19h sur Fréquence sa mort. Dans un instant, le journal. Avant de retrouver l'actualité, nous allons écouter Michel Fugain avec cette chanson que vous avez choisie. Yves, je parlerai de toi en deux mots. Pourquoi ce choix ?
Ça fait partie d'un album auquel j'ai collaboré avec Michel. Il a demandé à des auteurs qui lui ont donné envie d'écrire de faire un texte à la demande. Comme ça, il a commandé à des gens pour qui il avait de l'estime un texte. Et ce texte-là, Je parlerai de toi, c'est Aznavour qui lui a écrit. Et j'étais extrêmement, moi, touché d'avoir la possibilité de participer à cet album, parce que moi, Fugain, j'ai chanté toutes ses chansons depuis le début. Dès que j'ai commencé à toucher une guitare, j'ai chanté des chansons de lui. Et donc, m'apercevoir que je faisais partie des artistes à qui il avait envie de demander ça, je vous assure que c'était un événement pour moi.
On écoute donc Michel Fugain avec « Je parlerai de toi ».
Je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je ne parlerai pas du monde d'aujourd'hui, cela ne sert à rien de hurler face au vent, je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas car à quoi sert un cri s'il ne réveille pas la conscience des gens. Je n'en parlerai pas. Je ne parlerai pas des scandales en série, des filles de l'amour qui vivent sans amour, des travailleurs au noir sous-payés asservis dans des caves humides où n'entre pas le jour. Je parlerai de toi, rien que de toi qui donne encore un de joie à mes années d'automne, de la peur qui m'oppresse, au cœur chaud de tes bras, quand je sens ta jeunesse avide encore sous moi. Je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je ne parlerai pas de l'hiver qui s'en vient, jetant sur le pavé ceux qui ont tout perdu. Je n'en parlerai pas. Ceux qui malgré la honte osent tendre la main, des enfants affamés, volés, violés, vendus. Je n'en parlerai pas. Non, je ne dirai rien de ce qui me fait mal, de ce qui me révolte et ce que je ressens. Je n'en parlerai pas car tout devient banal, et l'odeur de la mort et la couleur du sang. Je parlerai de toi, rien que de toi qui donne encore un peu de joie à mes années d'automne, de la peur qui m'oppresse, au cœur chaud de tes bras, quand je sens ta jeunesse avide encore sous moi. Je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je ne parlerai pas des discours vains et creux, des tribuns convaincants, aux parleurs de tous bords. Sous couvert d'un parti ou représentant Dieu, de la loi de la jungle et celle du plus fort. Je fermerai les yeux sur tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, je ne soufflerai mot et porte verrouillée. Je resterai chez moi, je parlerai de toi. Rien que de toi qui donne encore un peu de joie à mes années d'automne, de la peur qui m'oppresse, au cœur chaud de tes bras, quand je sens ta jeunesse avide encore sous moi. Je parlerai de toi, rien que de toi qui donne encore un peu de joie à mes années d'automne, de la peur qui m'oppresse, au cœur chaud de tes bras, quand je sens ta jeunesse avide encore sous moi. Je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je parlerai de toi, tout simplement de toi.
5 à 7, The Place to Be.
Vous savez, moi, dans les discothèques, on était quelques Corses comme ça.
5 à 7, à vos cassettes. Ah non.
Tantôt, j'allais en costume 3 pièces, le lendemain, j'étais en poncho.
5 à 7.
Oh non, rien de pire.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Fréquence Mort, la dernière partie du 5 à 7. C'est Yves Duteil qui nous fait l'amitié d'être avec nous en ce 24 décembre, chanteur et grand amoureux de la Corse, tout le monde le sait. Vous avez entendu, Yves, depuis le début de cette émission, l'actualité du soir, qu'elle soit nationale ou régionale. Vous regardez beaucoup la télévision, vous écoutez beaucoup la radio?
Oui, et quand on est en Corse, curieusement, on a envie de regarder les émissions de Télé Corse, c'est-à-dire de se tenir au... On a gardé une vieille antenne de télé pour être sûr de ne pas avoir que la... France 3 nationale pour pouvoir avoir le Corsica Serra. C'est marrant. On est comme ça. Quand on est là, on est vraiment là, quoi.
Oui.
Oui, on regarde bien sûr, on se tient au courant de l'actualité, ne serait-ce que parce que l'actualité nous rejoint tout le temps. On met la radio dans la voiture, on met le journal le soir. On est quand même baigné d'informations, surinformés. Peut-être même que parfois c'est néfaste à l'information, parce que ça banalise la souffrance, le drame. Mais on ne peut pas être en dehors.
Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui quand vous allumez par exemple la télé ou la radio ? Quelle est votre dernière colère ?
Je vais vous dire, les attentats en Inde m'ont profondément marqué parce que je crois qu'il y a deux catégories d'humains sur la Terre. Vous avez d'un côté ceux qui cherchent à résoudre des problèmes de maladie. Vous allez faire un téléthon, vous rencontrez des chercheurs, des gens qui passent leur vie dans des laboratoires à essayer d'analyser des molécules qui permettraient de retarder l'action néfaste de telle ou telle bactérie ou de tel ou tel virus et qui les essayent d'abord sur des rongeurs, après sur des animaux plus importants, puis après on passe à l'homme, puis après ils vont passer leur vie au service de la réparation humaine. Ils vont faire en sorte que quelqu'un puisse obtenir une greffe de cœur, de poumon, de rein, de foie, que des enfants soient sauvés, etc. Première catégorie. Deuxième catégorie, vous avez les gens qui vont réfléchir à la manière de tuer le plus grand nombre de gens avec des machines les plus infernales possibles, les plus rentables en termes de mort, en termes de d'échiquetage d'humains dans des marchés là où il y a le plus de femmes, d'enfants, d'innocents. Et voilà, ça c'est l'humanité. Les deux faces de l'humanité. Et c'est nous, c'est vous, c'est moi. On a tous à la fois cette volonté, à un moment donné, de rentrer dans l'art des gens qui nous énervent, et en même temps, cette volonté d'aider l'humanité à aller mieux. Y a des gens qui se réveillent la nuit en se disant « Ah, je pourrais peut-être mettre des shrapnels encore plus meurtriers dans ma bombe pour que ça tue peut-être 50 ou 100 personnes de plus sans mettre plus d'énergie d'explosifs dans le truc. » Voilà. Et d'un autre côté, des gens qui reçoivent ces gens-là à l'hôpital pour essayer de les réparer. Voilà, ça me bouleverse.
Pour revenir à l'actualité en Corse, vous êtes sensible quand on parle de la Corse à tout point de vue dans les médias ?
Oui, je suis sensible parce que je trouve que parfois, on n'en parle pas bien. Je trouve que c'est vrai qu'on ne peut décrypter les messages qu'en étant souvent sur place. En même temps, même parfois, les gens qui sont sur place, ils ont du mal à décrypter les messages eux-mêmes de leurs propres compatriotes. Donc je crois que rien n'est simple. Et avoir une vision simpliste de la Corse, c'est forcément en avoir une vision fausse. Donc parfois, oui, je trouve que la vision est un peu courte.
Vous essayez d'apporter une sorte de message à vos proches sur le continent, comme on dit ?
Oui, je ne cesse d'essayer d'apporter le regard sensible de quelqu'un qui aime les Corses et la Corse. Parce qu'il y a toujours ce discours un peu facile qu'on s'essaie de dire « mais s'ils veulent leur indépendance, ils n'ont qu'à la prendre, on va leur donner et puis voilà, ce sera fini ». Mais c'est comme quand on dit « s'ils s'entretuent, c'est bien, comme ça, il y en aura moins ». Voilà. C'est des discours tellement simplistes, tellement révoltants. Nous, on voit autour de nous que dans les familles corses, évidemment, il y a forcément des gens qui sont impliqués. Donc si on les tue, c'est beaucoup de souffrance dans les familles. Et si on les emprisonne, c'est beaucoup de souffrance aussi. Il n'y a pas de solution par là. Il y a un apaisement à trouver. J'ai un peu l'impression qu'entre les dires des uns et le ressenti des autres, il y a vraiment un tel écart qu'il faudrait arriver à trouver un moment de vérité dans tout ça. Et je pense que, oui, j'en parle parce que je fais partie des initiatives qui sont prises par des gens pour montrer que la Corse, c'est pas seulement des gens corses, c'est aussi des gens extérieurs qui veulent apporter le regard d'admiration, d'estime et d'affection aux Corses, des gens comme l'association Corsica Diaspora, où j'essaie d'apporter mon témoignage, et je l'apporterai, parce que je crois que la Corse a besoin de vérité, elle a besoin que son image soit conforme à sa réalité. Et ce sont des gens comme ça qui valorisent la Corse. Il y a aujourd'hui des talents qui s'expriment, il y a des gens qui en veulent, qui veulent mordre dans la vie et donner de la Corse une autre image, j'essaye de les accompagner.
On parle beaucoup en ce moment, pour revenir à l'actualité, du PADUC, ce plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Vous qui êtes sensible à l'environnement, vous avez suivi un peu les différents levées de boucliers ?
Oui, j'avoue que j'ai regardé, mais je me permettrai pas trop de juger sur le détail parce que c'est un plan qui est tellement foisonnant, qui est représenté par tellement d'idées et tellement d'espoir que oui, il faut qu'il soit conforme à l'idée d'un développement durable. Mmh. Or, c'est très difficile dans une société qui est aussi hiérarchisée que celle de la Corse, d'imaginer que tous les problèmes vont se résoudre en 5 minutes. Il y a énormément de situations conflictuelles, de situations paradoxales. Et l'environnement, c'est souvent une question d'argent. Vous voyez, rien de plus facile. Alors, je vais dire peut-être une chose étonnante, mais je vais la dire quand même. Moi, je m'engage au niveau de l'environnement et je constate qu'il est plus difficile de s'engager sur des territoires où il y a des propriétaires que sur des territoires comme le pôle Nord, l'Antarctique, le désert du Sahara, où il n'y a pas de gens qui peuvent s'opposer à des dispositions qui sont prises sur des terres d'une façon, d'une autre. Ça crée des conflits. En tant que maire, je me rends compte que la propriété est une chose extrêmement difficile à toucher parce que les gens se résistent au fait qu'on prenne la liberté de disposer de leurs terres. Mais je suis confronté à cette réalité aussi bien sur le continent que on peut l'être sur la Corse. On est dans une zone où il y a, par exemple, une zone humide très importante à protéger. Et le Conseil général veut protéger cette zone. Et il se heurte aux agriculteurs, aux propriétaires qui refusent de se laisser simplement imposer des choix qui ne sont pas forcément les leurs ou qui leur apportent des inconvénients que méconnaît l'autorité. Eh bien, il y a des conflits. Ce n'est pas parce que c'est la Corse que le Padduc a du mal à se faire. C'est parce que partout où il y a de l'environnement à faire, là où il y a des propriétés, on se heurte à des situations qui soient soit conflictuelles, soit aussi tordues. Ça arrive. Donc, il faut arriver à la fois à mettre tout le monde d'accord. Ça prend du temps. Ça prend plus de temps en Corse ou en Seine-et-Marne que sur l'Antarctique ou le désert du Sahara.
Nous aimerions, Yves Duteil, vous faire écouter à présent un chant de Noël interprété par un certain Tino Rossi. Je suppose que vous connaissez. Une chanson qui s'intitule « Mon Noël Corse », chanson de circonstance en cette veille de Noël. Et on en reparle juste après. D'accord.
Toute la musique que j'aime.
Tout pour la musique.
Ce soir Noël est sur Paris, mais dans le ciel mon cœur s'enfuit. Là-bas dans mon village, il va vous retrouver, vous mes plus chers visages de mes jeunes années. Une guitare grêle vient trouer la fumée. Dehors monte l'appel du vieux clocher. Chante Noël, mon Noël Corse, je les hommes s'y ressemblent, jurant de mieux s'aimer. Et là dans la lumière, je vois l'arbre de joie et les yeux de ma mère penchés sur moi. Chante
Mon Noël Corse, Tino Rossi, chanson choisie spécialement pour vous, Yves Duteil. Une réaction à l'écoute de cette chanson ?
Oui, c'est émouvant. Il y a des phrases très simples. Ma mère penchée sur moi, c'est très beau. C'est très sensible, mais moi, ça me parle beaucoup, parce que d'abord, Tino Rossi était dans la même maison de disques que moi à mes débuts.
Ah oui.
Et lui, il avait 50 ans de carrière. Et c'est vu de mes 25-26 ans, c'était impressionnant. Et puis, la voix de Tino Rossi me parle aussi, parce que artistiquement, c'était très, très beau. Tout simplement. Puis ça me rappelle la voix de mon ami Yves Tozzi qui imite très très bien Tino Rossi.
Noël, c'est une fête importante dans votre cœur, Yves Duteil ?
Oui, parce que d'abord, c'est le prénom de mon épouse. Donc c'est sa fête tous les jours.
On la salue, elle est près de vous.
Voilà. Et puis aussi parce que je crois que c'est un moment extraordinaire de partage avec à la fois les gens qu'on aime et qu'on connaît et à la fois aussi les gens qu'on ne connaît pas et qu'on se met à aimer à distance en leur proposant un peu de partage. Quoi. Mmh. C'est le moment où on essaie de faire plaisir aux gens qu'on aime, en essayant de trouver le cadeau qui va les toucher. Et c'est un moment un peu spécial de la vie, un moment où la générosité est à l'honneur, parce que ce n'est pas forcément le cas le reste de l'année.
Nous avons l'animateur dans le 5 à 7 qui pose des questions aux invités. Il s'appelle Jean-Michel Fraigel. Il vous pose donc ce soir une question, Yves Duteil.
Yves Duteil, bonsoir. Nous n'allons pas parler aujourd'hui musique. Aujourd'hui, plus personne n'ignore votre lien de parenté avec le capitaine Alfred Dreyfus. Mais savez-vous à quel grade Alfred Dreyfus a terminé sa carrière militaire ? Était-il toujours capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel ? À quel grade Alfred Dreyfus a-t-il terminé sa carrière militaire, capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel ?
Facile, Yves Duteil, non ?
C'est entre lieutenant-colonel et colonel. J'allais dire lieutenant-colonel, mais je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas eu ce grade de colonel à la fin.
Alors, vous me dites ?
Ah ! Colonel.
C'est une bonne réponse. Voilà. Vous l'avez rendu d'ailleurs hommage à plusieurs reprises, notamment il y a une chanson.
Oui, j'ai fait une chanson qui s'appelle Dreyfus. Mmh. Et c'est une chanson qui m'a été vraiment inspirée par l'envie de perpétuer la mémoire de son innocence, qui n'était pas vraiment établie dans l'esprit du public, alors qu'elle l'était dans la certitude des historiens. C'est une certitude scientifique. Hein. Tous les éléments aujourd'hui de l'affaire Dreyfus sont connus, il n'y a plus de mystère. Mais dans l'esprit des gens, au moment où j'ai fait la chanson, ce n'était pas encore complètement rentré. Et il me paraissait important, comme j'avais écrit un jour La langue de chez nous et que ça avait perpétué l'image de l'intérêt de la langue française dans le monde et pour les Français eux-mêmes, les francophones, je me suis dit, on peut écrire une chanson et faire durer la mémoire de quelque chose plus longtemps à travers la chanson. Et je me suis dit, c'est peut-être à moi qu'incombe ce rôle, moi, son petit neveu, d'essayer de faire que la mémoire de son innocence s'établisse de plus en plus au fil des temps. Et je me suis dit, une chanson, à partir de l'idée où je pouvais écrire une chanson, ça m'a habité. Pendant un an, j'ai travaillé à écrire le premier vers de la chanson. Et ça m'a pris vraiment un an de trouver le fil pour tirer ce fil. Je suis un peu ton fils. Et tout a suivi derrière. La chanson, l'injustice, la famille... Je voulais dire des choses vraies et qui soient assumables par tous les vivants qui sont encore impliqués aujourd'hui dans l'affaire. C'était très délicat. Il fallait ne dire que du vrai, du juste, et le dire avec des mots choisis.
J'aimerais que l'on revienne sur la chanson, Yves Duteil, la musique, avec vous qui avez franchi le cap donc des 35 ans de carrière en sortant votre 13e album. Vous écoutez, je suppose, tout ce qui se fait aujourd'hui en variété française ?
Tout, non. D'abord parce qu'on n'a pas accès à tout. Et ça, c'est un de mes regrets. Je pense que plus la vitrine médiatique s'est élargie et diversifiée, plus en réalité, le nombre d'artistes qu'on y trouve est réduit. Et ça, c'est un défaut assez paradoxal de notre époque. La vitrine est immense et en réalité, elle est très, très réduite à peu d'artistes et peu de titres différents. Je plaiderais pour qu'il y ait, au niveau de notre métier, la même diversité que la fameuse diversité biologique dont on clame le côté indispensable au Grenelle de l'environnement. Donc je voudrais qu'on fasse du développement durable et de la biodiversité au niveau de la chanson.
Vous soutenez les jeunes artistes, est-ce que vous avez des coups de cœur ?
Oui, alors justement, je vous parlais tout à l'heure de Julie Miller. Mmh. Julie Miller, elle n'existe pas encore médiatiquement puisqu'elle n'a pas d'album. Elle a chanté pendant plus d'un an dans mes concerts, en première partie, mais je ne dirais pas en première partie, intégrée dans le concert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'efface, je me mets sur le tabouret du guitariste et je l'accompagne, ou bien au clavier du piano et je l'accompagne et je lui fais une place et j'ai fait ça pour beaucoup d'artistes dans ma carrière. Et c'est pour moi un côté indispensable de mettre, de mettre le pied à l'étrier à des jeunes artistes qui ont du mal à trouver un public.
Il y a du potentiel en France, vous pensez ?
Incroyable. Il y a une vraie, un vrai foisonnement de talents. Il faut se promener du côté des festivals, des petites scènes alternatives, des petits lieux de spectacle, des cafés-théâtres. Et on trouve, mais moi je reçois plein d'albums qui sont autoproduits. Les gens ne savent plus très bien où s'adresser. Mais les talents, ils sont là, il n'y a aucun doute. Mais le problème, c'est qu'on ne forme pas forcément des artistes autant qu'on en formate. Et les radios, et là je ne parle pas ni de réseau France Bleu, qui lui a une vocation régionale et qui fait ce travail, et des radios régionales qui font aussi ce travail, mais qui ne suffisent pas à créer la masse critique pour qu'un artiste émerge comme la partie émergée d'un iceberg. Mmh. Aujourd'hui, on ne voit que la partie émergée d'un iceberg qui est immense et qui représente un talent, une richesse de talent qui est beaucoup plus vaste que ce que l'on a la possibilité d'entendre. Donc voilà, je plaide pour la biodiversité.
J'aimerais que l'on parle à nouveau de votre quotidien. Il nous reste quelques minutes avant de conclure cette émission. Le temps passe très vite. Votre quotidien, donc, vous avez été très occupé, bien sûr, cette année avec la sortie de votre nouvel album. Beaucoup de concerts. L'année 2009 sera aussi riche. Vous allez sillonner une nouvelle fois les routes de France. Cependant, vous ne vous prêtez pas à la loi du showbiz. Vous pensez que c'est une bonne chose en ce moment où l'on parle beaucoup d'argent? Il y a beaucoup d'argent dans la musique.
Le showbiz est un peu chaud pour moi et un peu bise aussi. On se fait beaucoup de bises, on s'aime beaucoup moins qu'on ne s'embrasse. Et je crois que j'aime pas le côté people de notre métier. C'est pas parce que je suis un artiste qu'il y a des passages obligés. Non, il n'y a pas de passage obligé. Brassens n'aurait pas été un artiste people. Il n'aurait pas laissé des journaux dire n'importe quoi sur lui. Je me sens pas obligé d'aller dans des passages pour avoir le droit simplement de dire j'écris des chansons et je chante. Non, mon métier c'est de chanter devant un public, mais c'est pas de faire le zouave, pas de faire le clown, ou pas de présenter ma famille en dévoilant le côté intime de l'existence qui fait partie de mon jardin secret. Ça s'appelle jardin secret.
Avant de se quitter, Yves, en cette veille de Noël, en cette période de fête de fin d'année, avez-vous des vœux à formuler à nos amis auditeurs qui nous écoutent ce soir ?
Oui, je leur souhaite un Noël paisible, un Noël très chaleureux au milieu des leurs. Je souhaite que tout le monde soit en bonne santé. Et je souhaite que dans notre monde, la force qui tend vers le meilleur, vers le bien, vers le meilleur pour l'humanité, l'emporte un peu plus cette année sur la volonté de déséquilibre, les intérêts personnels, l'égoïsme, l'indifférence. Je pense que Noël, c'est une fête où encore on met plein de petites lumières aux fenêtres, juste pour inviter chacun à partager un peu de la lumière des autres. Eh bien, je souhaite que cette année, ce soit une année de partage de lumière.
Merci beaucoup Yves Duteil d'avoir été avec nous. Hein, on rappelle que votre dernière actualité, c'est Fragile ou Agile, hein, comme on veut, votre dernier album que vous nous aviez présenté encore ce printemps dernier. Pour se quitter, vous avez choisi une très belle chanson interprétée par Avilette à l'Altre Monde, ou Avilette que vous connaissez bien hein, puisqu'il a participé à votre nouvel album. Bonne fête à vous Yves Duteil, et encore merci.
Merci à vous de votre accueil et puis merci donc à tous les auditeurs qui nous entendent. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël et je vous embrasse tous. Et je suis très heureux qu'on termine sur cette chanson d'Affilette parce que pour moi elle est très belle et on entend un peu enfin leur voix en solo.
Et à bientôt, au revoir.
Adesso ti chiamo all'improvviso. Carigumandame, Santa Maria dosumilia, o non mi lasce più, e mi contento e mi ramento, come se l'era tu.
Ti mando un fiore, uso colore, o sceglierei tu.
Oh, ma un tiro.